Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans ce studio, je suis là mais en télétravail car je vais être tout à fait transparente avec vous. J'ai quelques symptômes et j'attends les résultats de mon test. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, lui par contre, il est dans ce studio. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, en espérant que vous alliez bien. Et d'ailleurs, nous mettons le masque dans le studio, donc si jamais votre résultat était positif, nous ne sommes pas des cas contacts puisque Europe 1 a décidé d'imposer le port du masque dans tous les studios. Je pense que c'est une bonne mesure. En attendant, on va prendre soin de vous. Bonjour à toutes et à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, un peu de beauté pour bien démarrer la semaine. On va s'intéresser à la beauté de notre cou, de notre décolleté, une zone du corps sur laquelle la peau a tendance à se relâcher, à se friper assez vite dès 50 ans, ou même parfois un double menton peut s'installer. Alors heureusement, il y a des techniques de médecine et de chirurgie esthétique qui permettent d'améliorer tout ça. Pour en parler, nous recevrons le docteur Michel Rouif. Il est chirurgien plasticien à Tours et secrétaire général de la SOFCEP, Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous parlerons aujourd'hui de l'halitose. Savez-vous ce que c'est ? C'est tout simplement le fait d'avoir mauvaise haleine. Un problème qui peut s'accentuer en ce moment d'ailleurs avec le port du masque. Jimmy va nous expliquer comment, mais surtout bonne nouvelle, ça peut se traiter. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de pourquoi il est souvent difficile de parler de son orientation sexuelle en famille.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première question, c'est celle de Bastien. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai entendu dire que l'Institut Pasteur de Lille parlait d'un médicament miracle qu'ils auraient, soi-disant, testé pour le coronavirus. Et j'aurais aimé avoir l'avis de Jimmy par rapport à tout ce qui entoure ça, savoir si ça a été testé auprès de l'homme, car j'ai un peu l'impression que depuis mars, on nous parle de molécules miracles, mais au final, il y a toujours rien aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, un médicament miracle, effectivement, comme le dit Bastien, on en a entendu pas mal comme ça, des soi-disant médicaments miracles depuis le mois de mars. Alors je ne sais pas si de ce côté-là, en tout cas, c'est quand même l'Institut Pasteur de Lille, c'est quelque chose de sérieux. Quelles sont les données qui ont été mises en avant sur cette molécule en particulier ?
Alors vous avez raison, c'est vrai qu'on parle de traitement miracle et je n'aime pas beaucoup cette appellation. Tant qu'on n'a pas d'études solides sur l'homme, on ne peut pas conclure. Alors on ne sait pas encore quel médicament c'est. Ce serait un traitement qui existe déjà, qui aurait prouvé une efficacité sur des cellules pulmonaires humaines, c'est-à-dire dans in vivo, pas sur l'être humain, et qui serait plutôt bien toléré à la fois chez les adultes et chez les enfants et sans effet secondaire. Attention, souvenez-vous, le 25 février dernier, le professeur Raoult annonçait une amélioration spectaculaire avec l'infection pulmonaire la plus facile à traiter avec l'hydroxychloroquine. Donc pour l'instant, on en est loin. La seule façon de se protéger, c'est de porter un masque.
Et Jimmy, alors c'est vrai que là, donc c'est sur des cellules de poumons, enfin des cellules humaines in vitro, mais donc rien ne garantit, je veux dire, que ça va marcher chez l'homme. Hein. Ça arrive parfois que quelque chose marche dans des tubes à essai et puis pas quand on passe chez l'homme.
Exactement. Alors c'était le cas pour l'hydroxychloroquine. La seule chose, c'est que l'hydroxychloroquine était traitée sur des cellules rénales de singes, ce qui n'a absolument rien à voir avec les cellules pulmonaires. Ouais. Donc effectivement, la piste semble intéressante. Attention encore une fois, ce n'est que des études préliminaires. Il faudra tester ça sur l'homme. En revanche, ça pourra aller peut-être un peu plus vite que pour un vaccin, vu qu'on a déjà des autorisations de mise sur le marché. Donc, si jamais les essais sont concluants, peut-être qu'on aura un traitement, mais on n'en sait strictement rien. Pas de fausses promesses, ni de faux espoirs.
D'ailleurs, Jimmy, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, on n'arrête pas de dire qu'on prend de mieux en mieux en charge les patients qui sont atteints de la Covid-19. Est-ce qu'il y a un médicament en particulier qui déjà sort son épingle du jeu ?
Le seul traitement qui a fait preuve de son efficacité, c'est dans les formes graves, sévères, chez des malades sous oxygène ou en réanimation, c'est la dexamétasone, c'est les corticoïdes. Ça réduit la mortalité d'environ un tiers, mais c'est la seule chose. Et pour des malades qui sont à un stade avancé de la maladie, pour tout le reste, aucune preuve de quelconque efficacité pour n'importe quel traitement.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est celle de Gauthier. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors, je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai un petit bouton, en fait, qui se situe sur le dos de la main. Je ne sais même pas si c'est une verrue ou un bouton d'acné ou je ne sais pas du tout. Et c'est apparu cet été. Depuis, ça change de couleur et ça prend une drôle de forme. Donc, j'ai l'impression que ça grossit même. Est-ce que c'est un cancer ou est-ce que c'est quelque chose qui est... à vérifier auprès d'un dermato. Voilà, merci à vous, bonne journée.
Bon, Jimmy, on a peu de temps, mais pour répondre quand même à Gauthier, on est d'accord, toute lésion suspecte, il faut quand même mieux la montrer, de là à dire que c'est un cancer. Il y a une règle, hein, je crois, pour savoir si une lésion sur la peau est suspecte.
Exactement. Alors, il faut distinguer deux choses. Si jamais vous avez des lésions préexistantes, c'est-à-dire un bouton qui est ancien, qui est là, il faut le surveiller. Et attention aux nouvelles lésions. C'est celles que vous devez surveiller encore plus. Et il y a une règle toute simple que vous pouvez utiliser, mais qui est du dépistage en cas de doute, vous allez voir le médecin. C'est la règle ABCDE. Si jamais le bouton est asymétrique, s'il a des bords irréguliers, une couleur un peu bizarre, un diamètre de plus de 6 mm, ou s'il évolue dans le temps, eh bien, ça doit vous faire consulter au minimum votre médecin traitant. Et puis, s'il a un doute, il vous adressera vers le dermatologue. Et en cas de doute, on fait une biopsie pour être sûr que ce n'est pas un mélanome ou autre. Et ça peut être tout simplement une verrue, mais il ne faut pas laisser traîner ces lésions.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Gauthier qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Michel Rouif. Bonjour.
Bonjour Mélanie, dommage qu'on ne se voit pas, mais on s'entend, donc ça c'est de la radio.
On s'entend très bien et c'est le principal, c'est ça. Vous êtes chirurgien plasticien à Tours et secrétaire général de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors docteur Rouif, avec vous aujourd'hui on va détailler tout ce qu'il est possible de faire finalement en médecine et chirurgie esthétique au niveau du cou et du décolleté. Et justement, est-ce que c'est si important que ça d'avoir un joli cou? Est-ce que c'est vraiment une grosse demande, cette zone-là de notre corps, surtout les femmes j'imagine, dans vos cabinets?
Je pense que ce qui est très important, c'est de faire attention à l'harmonie. Et souvent, on parle du visage, mais on oublie de regarder le cou. Et très régulièrement, on a des demandes qui sont partielles. Donc, le cou est très important. Il n'y a qu'à juste se rappeler ce que faisaient nos grand-mères avec des foulards qu'elles portaient au-dessous de leur chapeau pour pouvoir affiner leur cou. Donc, je pense que le cou est extrêmement esthétique et il doit rentrer dans une analyse pointu de la consultation d'esthétique.
Surtout parce qu'on a du mal à le cacher, contrairement au visage, il est plus exposé et donc du coup plus visible.
Il est très exposé, puis comme il est potentiellement très joli, je pense que c'est un joli cou, ça s'expose, et donc on veut exposer un joli cou.
Pourquoi c'est si important? Donc justement, cette plainte du décolleté, c'est pas aussi parce que finalement vous disiez il peut y avoir un décalage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui prennent très soin de leur visage, qui font du botox, qui font des soins, qui font des peelings, et peut-être qu'à un moment donné il y a un décalage entre ce qu'on montre au niveau du visage et le cou, le décolleté, c'est ça?
Ouais, je crois que ça c'est tout à fait juste. On est beaucoup focalisé sur le visage, qui d'ailleurs est la zone de communication forte, la face. Et on oublie un petit peu le cou qui pourrait être le parent pauvre, alors qu'encore une fois, un très joli cou, c'est très important. Donc, et puis alors, il y a la prévention dont on va peut-être parler, mais la prévention du cou est essentielle et l'exposition solaire, elle est majeure, souvent. Donc il faut faire attention à tout cela.
Jimmy ?
Et justement, les patientes qui viennent vous voir, quelles sont leurs plaintes? De quoi on se plaint quand on a un problème de cou? Ça paraît tout bête, mais trop ridé, trop gras, pas joli. Enfin, ça paraît un peu trivial, mais c'est pas très clair peut-être pour tout le monde.
Le cou, ça intéresse aussi bien les jeunes que les moins jeunes.
Je pensais que c'était plutôt quelque chose de la femme plus âgée,
non,
j'allais dire.
Non,
mais
non,
pas que.
Pour les jeunes, c'est souvent ce qu'on appelle le double menton, qui est en fait une petite surcharge de graisse parfois, ou un problème constitutionnel. Donc il y a une réelle demande, même chez des personnes jeunes. Et puis chez les moins jeunes, c'est la texture de la peau. On en reparlera, ces bandes musculaires qu'on voit qui sont verticales. C'est la texture de la peau qui n'est pas tout à fait élastique. Enfin, il y a une autre demande, une perte de définition du cou. Je pense qu'également, on va l'évoquer.
C'est quand la peau pendouille, c'est ça? Quand
c'est
on
ça,
vieillit,
ouais.
En fait, des rides et puis...
Un petit coup de dindon, un peu, comme ça.
Alors, c'est ça. Donc, il faut trouver l'animal. Mais bon, le dindon, on comprend bien qu'il y a cette espèce de bande verticale cutanée qui déplaît énormément. Et d'ailleurs, parfois, les patientes ne le voient pas. Elles viennent pour le visage. Et vous leur dites,
vous n'avez pas vu, mais sous le cou, c'est pas terrible non plus.
Non, il faut être gentil. Et je pense qu'on leur fait remarquer que si on traite le visage comme il faut, on peut avoir une dysharmonie ensuite. Et c'est notre devoir, c'est notre travail d'identifier ce qui permet de réguler l'harmonie, en fait, visage, cou et décolleté.
Docteur Rouif, à quel âge on commence à avoir la peau qui pend justement un petit peu, enfin qui se cet effet un peu dindon, j'allais dire, mais c'est, il faut, on n'a pas ça à 20 ans clairement, hein.
Non, pas du tout, effectivement. Alors, encore une fois, la prévention fait que le cou, la peau cervicale, on dit comme ça du coup, s'abîme plus vite si on l'exposait au soleil longtemps, et avec les années cette peau se détend. Et alors, juste une petite remarque pour les auditeurs pour qu'ils comprennent bien, le cou c'est un peu particulier, c'est une zone creuse contrairement à la face, qui est une zone plutôt arrondie. Donc, le traitement est presque un peu à l'opposé. C'est-à-dire qu'on n'a pas obligatoirement de la peau en trop, mais on a de la peau qui tombe devant. Donc, ça oblige les praticiens à vraiment réfléchir différemment. Et c'est une région qui est passionnante à ce sujet-là.
Donc, vous dites
une petite dernière, oui.
On s'expose plus au soleil. Ça veut dire que nos coups à nous sont plus abîmés que les coups de nos grands-mères, en fait.
Au XVIIIe siècle, il fallait avoir un décolleté blanc, la peau porcelaine. Et puis ensuite, au XXe siècle, on s'est exposé sur les plages. Et on a vu après des personnes arriver à 50, 60 ans qui avaient beaucoup d'exposition solaire avec un cou qui était très marqué et un décolleté avec une peau qui était tachée et un peu fripée.
D'accord. Et juste, les hommes aussi viennent voir, parce qu'on parle d'un problème de femme, mais est-ce que...
Ah, vous êtes intéressé, Jimmy, j'en ai
non, mais je suis conscient, je suis encore jeune, mais je sens
pour l'instant,
que...
le coup de 30 ans, ça va, mais vous prévoyez, quoi.
Exactement, la chute est proche, à mon avis.
Mais la seule différence avec les hommes, c'est qu'on ne s'intéresse pas au décolleté, mais on s'intéresse au cou, on s'intéresse au cou, parce que c'est vrai que les hommes, bon, on a tous entendu, il y a quelques dizaines d'années, pour les plus vieux dont je fais partie, sans doute, le cou Balladur, par exemple, qui était ce cou qui était effectivement, qui pendait en excédent cutané de peau. Donc évidemment, les hommes, ça les intéresse. Et en particulier, comme ils sont parfois sportifs, ben, ils perdent un peu de poids et du coup, la peau devient relativement en excès.
Docteur Rouif, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur Michel Rouif. Vous êtes chirurgien plasticien à Tours et secrétaire général de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors aujourd'hui, on se refait une beauté au niveau du cou et du décolleté. Une forte demande féminine dans vos cabinets, mais vous avez dit qu'il y avait aussi des hommes hein, qui sont intéressés par cette zone de plus en plus. Et je crois qu'on va commencer peut-être par parler finalement des aspects, on va dire, physiologiques. Parce que finalement, vous dites, je crois, quelle que soit la technique qu'on utilise, hein, chirurgicale ou médecine esthétique, on va dire, on ne peut pas faire de miracle parce que cette peau, elle est particulière.
Comme dirait Jimmy, effectivement, on ne fait pas de miracle. On fait de la médecine et on ne fait pas de miracle. Donc, il y a effectivement des éléments physiologiques ou plutôt, je dirais, anatomiques. Il y a des personnes qui ont des coups qui, dès le départ, sont difficiles à traiter parce qu'il y a des particularités. En particulier, le cou n'est pas très bien dessiné, puisque ce qu'on veut, en fait, c'est d'avoir un cou bien dessiné, un peu à angle droit. Et c'est ça qui fait le fantasme du joli cou. Un cou un peu long et bien dessiné, avec un rebord de la mandibule très joli. Et un petit peu d'espace derrière la mandibule, à la petite goutte de parfum, comme on l'appelle, là où les dames mettaient un peu de parfum.
Vous en parlez très bien, c'est très joli. Tout
c'est,
ça,
oui, c'est clair, j'allais dire, c'est très poétique,
c'est vrai, hein,
c'est
beau, hein.
La petite goutte de parfum.
Mais c'est vrai, c'était comme sur la main, on mettait une goutte de parfum à l'arrière de la mandibule.
Alors, on viendra juste après aux techniques chirurgicales, mais est-ce qu'en médecine esthétique, on ne peut pas déjà faire des petites choses sur le cou? Souvent, on parle d'acide hyaluronique. Est-ce que c'est une bonne indication? Est-ce que ça marche? Et sinon, est-ce qu'on a autre chose à proposer?
L'acide hyaluronique sur le cou, il n'y a pas beaucoup d'indications, en fait, parce qu'à part les quelques bandes transversales qu'on voit chez des patientes un petit peu avancées en âge, on peut essayer de les combler. Il n'y a pas tellement de place pour l'acide hyaluronique. Il y a de la place pour la toxine chez des personnes qui ont des bandes musculaires un peu en avant et qui se tendent, comme quand on
fait. Parce que si on est ridé au niveau du cou, on peut faire donc du botox sur le cou.
Oui, la toxine peut être intéressante. Ça peut vraiment faire partie d'un élément de traitement. Mais l'acide hyaluronique a peu de place. Bon, les greffes graisseuses, toutes ces techniques de techniques régénératives peuvent être intéressantes aussi, mais il n'y a pas trop de place pour l'acide hyaluronique, en fait.
Et la toxine botulique, le botox, par contre, vous dites, bon, il peut y avoir des indications. Oui. En revanche, il faut savoir que ça ne dure pas l'effet. On est d'accord, pour y revenir tous les combien?
C'est 6 mois, hein. c'est rarement plus. Hein. Ouais.
Donc ce n'est pas du définitif.
Non,
en
pas
tout
du tout, ouais, absolument.
Jimmy?
Certaines patientes se plaignent de taches au niveau du décolleté, au niveau du cou. À quoi ça peut être dû?
Alors, il y a quelque chose qui est important pour les auditeurs, c'est la notion du parfum, les taches qui sont liées au parfum. On y revient. Et c'est pas parce que Kenzo est parti il y a pas très longtemps qu'on va parler de parfum tout le temps, mais le fait de mettre un parfum, parfois il y a des tanins, il y a des composants qui font qu'il y a l'exposition solaire qui vient après avec l'alcool qui est dans le parfum. On peut avoir des taches, donc il faut faire très attention à pas s'exposer juste après ce type d'application.
Oui. Donc on ne met pas de parfum en été, par exemple, parce que ça risque de faire des taches. Je pensais que c'était des taches de vieillesse qu'on avait de toute façon, mais je ne pensais pas que le parfum pouvait augmenter le phénomène.
Il faut faire attention, on se met du parfum, mais on ne va pas s'exposer juste après en plein soleil. Quoi. Donc il faut être mesuré sur ce genre de
Je vous ai toujours dit, Jimmy, vous en mettiez trop du parfum. Attention,
oui,
hein,
c'est vrai.
Avec des taches. Hein.
Et oui, c'est à vouloir être trop coquet, ça m'apprendra. Mais du coup, si jamais on a ces taches, est-ce qu'il y a des traitements comme le laser? Est-ce qu'on peut essayer de s'en débarrasser?
Alors, les lasers peuvent être vraiment un outil intéressant, mais là encore, il faut s'adresser à des personnes qui connaissent ces technologies. Il y a plein de longueurs d'onde différentes, donc il faut s'adresser à des praticiens qui ont la possibilité de vous proposer différentes longueurs d'onde, et ça, c'est très technique également.
Et quand donc il faut s'adresser à un laseriste, hein, quelqu'un qui est un peu spécialisé. On avait fait une émission sur les mains et apparemment ça marche très bien sur ce qu'on appelle les fleurs de cimetière. Mais du coup, si on a un peu la même chose au niveau du cou, si on a un bon praticien, ça peut marcher.
Ça se ressemble un petit peu. D'ailleurs, la peau du dos de la main et la peau du cou sont des peaux qui sont, on les voit là, et elles sont elles-mêmes le stigmate parfois d'une peau qui s'est peut-être un peu trop exposée ou qui vieillit un petit peu, quoi.
Ça se voit pas parce qu'on a des masques, mais j'ai un petit double menton.
Ça se voit quand même. Hein,
ça se voit. Oui,
je vous vois pas aujourd'hui. Mais bon.
Vous êtes très compatissante, Mélanie. Je m'en souviendrai. Mais est-ce qu'il y a des techniques comme, je sais pas, la cryolipolyse qui pourrait marcher justement sur ce double menton? Alors, qui peut un peu gêner certains.
Ce qui est très intéressant, le double menton, c'est souvent une demande des plus jeunes, et ça correspond souvent à de la graisse qui est en avant des muscles. Et donc cette graisse qui est en avant des muscles, c'est une graisse qui correspond parfois aux prises de poids. Et cette graisse peut évidemment être traitée par la perte de poids, mais aussi par des traitements qui cassent la graisse, comme la cryolipolyse, qui marche très bien sur cette graisse qui est en avant. Il y a aussi de la graisse qui est en arrière des muscles et qui n'est pas accessible à ces techniques-là. Et ça, c'est toute l'analyse du praticien avant tout traitement.
Donc ça, il faut voir avec le médecin si effectivement on est indiqué dans ce cas de double menton avec la graisse devant ou derrière. Enfin, le médecin jugera. Ça coûte combien, ça, si on veut faire la cryolipolyse? Donc ça marche par le froid, hein,
c'est ça.
On tue la graisse par le froid, entre guillemets.
Ouais. On attrape la graisse dans ce qu'on appelle une pièce à main et ensuite on la réfrigère à environ moins 10 degrés. Ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et donc les coûts, ça dépend du nombre de séances, mais c'est entre 500, 1000, 1500 euros en fonction de ce qu'on a à faire comme traitement.
Et ça marche bien, les résultats, la satisfaction,
la cryolipolyse marche bien, oui, tout à fait. Ça marche moins bien qu'une liposuction qui est très sculpturale, mais c'est une technique qui marche bien pour pas mal de localisations actuellement.
Docteur Wiff, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Michel Rouif. Je rappelle que vous êtes chirurgien plasticien à Tours et secrétaire général de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Alors cet après-midi avec vous, on fait le point sur les techniques qui permettent d'améliorer la qualité de la peau au niveau du cou et du décolleté, de rajeunir surtout leur aspect. Et donc la médecine esthétique, ça on en a parlé tout à l'heure, a ses limites. Hein, parfois, la seule solution, c'est la chirurgie. Alors dans quel cas justement?
Alors, la chirurgie, donc effectivement, il y a deuxième partie. On peut faire des chirurgies qui sont, par exemple, pour des doubles mentons, chez des personnes jeunes, on peut faire juste une lipoaspiration. On peut être amené aussi à faire une petite incision derrière le menton pour modeler le cou. Ce modelage du cou chez les jeunes, ça peut être très intéressant. La peau est élastique. On peut avoir accès à la graisse parce qu'on la voit. Et puis après, il y a, dans le cadre du vieillissement, on peut avoir un relâchement cutané qui est plus important avec une nécessité de décoller plus la peau, d'aller suturer les muscles, etc., devant le cou, etc.
Et entre deux chirurgies, il est possible, avec des fils tenseurs, de retendre la peau. Ça paraît un peu surréaliste, comme une marionnette, en fait. On met un fil, on tire, et puis c'est un peu simpliste, hein, je vous l'accorde. Mais...
Donc, ça vous intrigue, les fils, hein?
Ah oui, complètement.
les fils, c'est très intéressant dans le concept, mais on passe des fils, on ne décolle pas les tissus, on passe des fils. Donc le problème des fils, c'est combien de temps ça dure? Aujourd'hui, on s'intéresse effectivement à mettre des fils pour le cou aussi. C'est tout à fait actuellement, on voit des évaluations avec des
fils. C'est des fils en quoi d'ailleurs? Parce qu'on se demande,
il y a des fils sous la peau. Il y a des fils qui sont dans des matériaux qui sont connus médicalement, qu'on utilise depuis des dizaines d'années, et qui sont résorbables, et d'autres non résorbables. Donc ça, c'est une question de choix. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on les positionne pour arriver à avoir une belle définition du cou. Et juste pour information... depuis il y a quelques dizaines d'années, Guerrero Santos, qui est un chirurgien sud-américain, Gianpapa avait décrit des techniques qui déjà utilisaient des fils, mais associées à la chirurgie, de façon à limiter l'agression du geste chirurgical. Donc ça revient, mais on parle des fils utilisés tout seuls. Et la problématique des fils tout seuls, les fils tenseurs, tels qu'on a l'habitude d'en parler, c'est une problématique de est-ce que ça dure longtemps et c'est ça, et comment les mettre pour que ça soit joli et harmonieux.
On les met où justement ces fils alors?
Alors, ils sont souvent tendus entre la région sous l'oreille et l'angle du cou. Et on essaye de redéfinir. Alors, il y a des coups qui se prêtent peut-être mieux que d'autres. Alors, ce qu'il faut dire aussi pour les fils, c'est que Encore une fois, la durée dans le temps, on a un peu de mal à penser que ça dure très longtemps.
C'est un an ou deux en général.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors certains disent un peu plus, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Et la deuxième chose, c'est important d'avoir un coup qui soit assez, léger. C'est-à-dire que si on a un coup qui est très empâté, qui est très graisseux, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une belle définition. C'est pas la peine, quoi. Donc il y a des coups qui se prêtent mieux que d'autres. Et en général, c'est des coups de personnes qui ont cinquantaine d'années, qui ont déjà un petit peu de relâchement, et là, c'est intéressant. Ouais.
Et puis, si jamais bon, ça ne marche pas, la grosse opération, c'est le lifting, c'est ça? C'est plutôt réservé aux personnes qui ont plus de 50 ans?
Alors, oui, le lifting, donc il y a des liftings qui sont... Déjà, quand on retend la joue, on intervient un peu sur le cou, et surtout quand on redescend un petit peu plus bas, on a le cou et la basse joue sont assez liés, en fait. Hein. Donc, la technique de lifting classique peut être très efficace sur le cou. Elle peut être associée à une petite incision sous le menton. Et puis, à l'extrême, on essaye de ne pas trop décoller la peau au milieu, sur les côtés plutôt. Et dans certains cas, on est obligé de décoller largement la peau.
Donc c'est une opération lourde, là.
Là, ça devient une intervention plus lourde, mais qui a vraiment ses indications, parce qu'on peut être amené à restructurer le cou, à le modeler. C'est vraiment de la sculpture au niveau
du... Et le résultat est bon? Est-ce que les patients, du coup, c'est sous anesthésie générale? Ça doit être un peu douloureux, quand même.
Quand on fait ces grandes techniques, le résultat est peut-être très, très bon, mais les suites sont un peu plus longues. Et c'est vrai qu'il faut plusieurs mois avant d'être confortable, parce qu'il y a toute cette cicatrisation. Donc, c'est plus inconfortable que les liftings juste de la joue qui descendent un petit peu sur l'arrière du cou.
Voilà. Ah oui, plusieurs mois pour se remettre complètement. Mais ça coûte à peu près combien? Enfin, environ, on va dire, une fourchette. Et on est visible au bout de combien de temps socialement, je dirais?
Le lifting, du coup, si c'est un coup chez une personne jeune, qui est juste en avant du cou par juste une incision sous le menton, c'est un coup qui est de l'ordre de 3 000, 4 000, 5 000. Si en revanche on associe ça à une chirurgie du visage, on a des coups, un temps opératoire qui est beaucoup plus long, et donc les sommes en jeu sont plus importantes. Ça peut sans aucun doute aller jusqu'à 10 000 euros, voire plus, surtout si on associe des paupières dans le cas d'une prise en charge esthétique globale, ce qui est idéal en fait, l'harmonie du visage et du cou.
Merci beaucoup, docteur Wiff, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Grâce à vous, on a compris qu'il y a pas mal de solutions du côté de la médecine esthétique ou de la chirurgie, en tout cas, pour rajeunir son cou, son décolleté. Merci encore.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'halitose. Savez-vous ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir mauvaise haleine. Alors, pourquoi sent-on mauvais de la bouche? Pourquoi le masque peut-il aggraver ce problème? Et surtout, comment ça se soigne? C'est quand même le plus important. Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Ça me fait penser à aliter. Donc c'est pour mettre une sonde pour alimenter une personne, je pense.
Halitose, ça m'évoque rien du tout. Aliter quelque chose, mais ça me dit rien du tout.
Tout ce qui est entose, j'ai une idée de décomposition de quelque chose ou de transformation, de dégradation.
Pour moi, c'est lié à l'haleine, l'halitose.
Il y a des gens, ça arrive. Je ne sais pas si je suis concernée, sinon il faut me le dire.
Une journée où on est pressé, on a complètement oublié de se laver les dents. Oui, ça arrive.
Pour moi, c'est oui, il y a les gens qui boivent qui vont être touchés par ce type de pathologie, parce que avec le foie, tout ça, ça sécrète des choses dans l'organisme, et du coup, ça sécrète une mauvaise haleine.
Peut-être l'alimentation aussi, ou des problèmes dentaires. Je l'ai ressenti souvent chez les gens qui boivent beaucoup de café et qui fument.
J'évite de trop manger, par exemple, des tomates. Il existe aussi en pharmacie. C'est en sachet, c'est une sorte de gel. On le prend, soit après manger, pour éviter d'avoir les remontées acides après. Voilà.
Jimmy, alors un sujet que vous connaissez bien, enfin parce que vous envoyez souvent en consultation, j'adore vous faire cette blague, hein, vous avez vu, hein, c'est un peu récurrent. Alors Jimmy, l'halitose précisément, c'est provoqué par quoi? Enfin le fait de sentir de la bouche, quoi. Hein.
Oui, c'est la mauvaise haleine. Alors il faut distinguer deux choses, la mauvaise haleine du petit matin qu'on a tous quand on a l'estomac vide.
Normal,
c'est normal.
Quand on n'a pas lavé les dents.
Exactement, quand on ne s'est pas lavé les dents, puisqu'on est à jeun, on va fabriquer des protéines qu'on appelle des corps cétoniques qui donnent une mauvaise haleine. À distinguer de la vraie halitose, le fait d'avoir mauvaise haleine qui est sous-jacente d'une pathologie dentaire dans 90% des cas. Et donc, il faut déceler la maladie qui va avec la mauvaise haleine.
Alors, certains aliments, je crois aussi, peuvent provoquer de l'halitose.
Oui, évidemment. Alors, si vous mangez du maroilles le matin, c'est normal d'avoir mauvaise haleine.
Mais je pense à d'autres choses. Ouais.
Oui, alors vous savez, l'ail, le chou et les oignons donnent mauvaise haleine. Ça paraît intuitif comme ça, mais en fait, ils dégagent ce qu'on appelle des dérivés sulfurés que vous allez absorber et ingérer dans le sang. Or, ces dérivés sulfurés, pour les éliminer, vous allez les excréter dans l'urine, mais aussi dans les poumons, dans les voies respiratoires. Et donc, c'est normal d'avoir mauvaise haleine après avoir mangé de l'ail, du chou et de l'oignon. Même chose avec la viande. Ceux qui mangent énormément de viande avec un apport protéique important vont modifier ce qu'on appelle le pH dans l'acide, dans la bouche, pardon, c'est-à-dire le rapport entre l'acidité et le basique. Et donc, ça va favoriser la prolifération de bactéries qui vont entraîner de la plaque dentaire et donc de la mauvaise haleine. Et puis, on entendait quelqu'un dire les personnes qui prennent beaucoup de café, qui fument, ont aussi mauvaise haleine. C'est vrai, puisque le café est une boisson astringente. Alors derrière ce nom un peu pompeux, ça veut dire simplement que ça assèche la bouche. Or, la salive, c'est un très bon antibactérien. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de salive, eh bien, vous sentez mauvais de la bouche.
Alors, c'est peut-être pour ça qu'avec le masque, justement, il y a plus de gens qui se plaignent ou qui se plaignent de leurs collègues à cause de la mauvaise haleine. Hein.
Exactement.
C'est l'assèchement, c'est ça ?
Exactement, l'assèchement des muqueuses, un peu moins de salive. Et donc, par conséquent, on sent un peu plus notre odeur vu qu'on est dans un milieu clos qui est le masque. Et donc, forcément, bah, ça sent un peu mauvais de la bouche.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces gens qui portent le masque et qui tout d'un coup ont découvert qu'ils sentaient un peu de la bouche ?
Eh bien, c'est de se brosser les dents, d'aller chez le dentiste. Ça paraît tout bête, mais la plaque dentaire peut entraîner justement la formation de cette mauvaise haleine. Vous pouvez avoir une gingivite, l'inflammation des gencives, qui va aussi donner de la mauvaise haleine. Donc, un tour chez le dentiste après un brossage de dents et l'utilisation du fil dentaire peuvent largement suffire à vous éviter tous ces petits agréments. Sinon, vous mangez un bonbon à la menthe et puis ça passe, hein, en attendant
cache-misère. Boire de l'eau aussi, je crois que ça permet de réhumidifier la bouche.
Exactement. Et les chewing-gums aussi, sans sucre, ouais. Ça stimule les glandes salivaires et donc plus de salive, moins de mauvaise haleine et tout va bien.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, c'est la Semaine nationale du refuge, la fondation Le Refuge qui vient en aide aux personnes victimes de LGBT-phobie. Pour l'occasion, Catherine, j'aimerais qu'on aborde la question de justement comment on aborde cette homosexualité, notamment dans la famille. Pourquoi c'est toujours plus difficile de parler de ça, de son orientation sexuelle, de son homosexualité, parmi les siens, finalement ?
Alors déjà, c'est difficile de parler de sexualité avec ses parents parce qu'il faut le temps de se l'approprier et on a toujours la peur, inconsciente bien sûr, de mélanger notre sexualité avec celle de nos parents. Donc on n'est pas très enclin à parler de ce qui fait notre désir. Alors évidemment, dès lors que ce désir ne s'apparente pas du tout à la construction d'une cellule familiale, c'est-à-dire du couple référent parental, évidemment que c'est encore plus difficile d'imaginer pouvoir l'évoquer avec ce sentiment toujours en nous d'avoir défailli quant au modèle proposé par eux.
Jimmy ?
Parce que souvent, on se dit, est-ce qu'il faut faire une annonce, mais on ne fait pas d'annonce quand on est hétérosexuel. On ne dit pas au fait, papa, maman, je suis hétérosexuel. Donc, est-ce qu'il faudrait faire une annonce, je suis homosexuel, ou est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, dire, j'ai un copain, ou est-ce que ce moyen détourné change quelque chose, ou finalement, l'annonce reste exactement la même, peu importe la façon dont on la présente ?
J'aime bien votre question parce que oui, effectivement, pourquoi on doit faire des annonces de notre sexualité ? Alors évidemment, après je vais dire l'inverse, mais vous avez raison, est-ce qu'il est de notre devoir d'expliquer où on en est, si on n'est pas serré à l'acte déjà, parce que dans nos familles aujourd'hui même, il faudrait dire qu'on l'a fait ou qu'on ne l'a pas fait, alors que ça nous appartient finalement ? Parce qu'on est dans une société qui veut parler de la sexualité, il faut parler de la sexualité, on est normaux si on parle de notre sexualité, si on est agissant de notre sexualité, mais du coup ça ne suffit pas, il faut aussi dire comment nous sommes agissants et avec qui. Donc c'est quand même une curieuse question. Ceci étant, bien sûr qu'à partir du moment où on vit une sexualité qui ne pourra pas s'apparenter à celle des parents, donc à un couple hétérosexuel qui pourront faire des enfants, si tant est que tous les couples hétérosexuels puissent faire des enfants, et la réponse est non, bien évidemment. Évidemment qu'à ce moment-là, comment je vais pouvoir être accueillie et être accueillie avec mon partenaire ou ma partenaire. Et c'est là que ça pose une difficulté, parce que tôt ou tard, je vis ma sexualité de mon côté, mais après j'ai envie de pouvoir revenir sur le terrain familial, et évidemment qu'il va falloir être accueillie avec qui est à côté de moi. La personne que je peux trouver présentable, mais en plus, d'autant plus en difficulté, parce qu'elle n'est pas de ce couple hétérosexuel comme papa et maman le sont.
Mais Catherine, encore une fois, hein, y a des gens qui ont peut-être envie aussi d'en parler à leurs proches, parce que c'est pas que ce soit une obligation, bien sûr, on l'a compris, mais quand on a ce désir d'en parler à ses parents, parce qu'on est quand même proche d'eux ou qu'on a simplement envie, est-ce que c'est pas bien de commencer peut-être par ses frères et sœurs, parce que le jour où on va pouvoir le dire aux parents, ils seront là et peut-être des alliés déjà au départ ?
Alors, c'est peut-être encore une fois, n'entendons pas dans ce que je disais tout à l'heure que ça nous appartenait, qu'il ne fallait pas en parler, puisque de toute façon, nous allons vivre en société et la société parentale, familiale, y participe. Et donc, il va falloir pouvoir exister très tranquillement sans avoir besoin de se cacher. Donc, en parler, bien sûr, aux uns et aux autres et choisir qui sont nos alliés. Nos fratries ne sont pas toujours nos alliés. Il y a des tensions dans les fratries, il y a des rivalités dans les fratries, ou au contraire, il y a des protections à trouver parce que, justement, ce n'est pas mêler notre sexualité à celle de nos parents, mais plutôt à être avec celle de nos pères, donc, dont font partie nos frères et nos sœurs, en leur demandant, en leur expliquant ce que nous vivons, comment nous avons grandi avec ça, ce qui nous a fait peur dans cette découverte, on peut trouver dans des personnes de même génération une compréhension et effectivement un appui, si tant est qu'il faille un appui auprès des parents. Mais je crois qu'à un moment donné, de toute façon, c'est parler à ses parents en disant l'inquiétude qui est la nôtre de ce que nous vivons, si différent d'eux, et l'inquiétude que ce ne soit pas accueilli comme ça pourrait être très tranquillement.
Parce que justement, Catherine, on entend souvent dire « tu le diras quand tu seras prêt à faire cette annonce », mais quand est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on est prêt ?
Alors, je crois que quand on est prêt, c'est quand on est prêt à assumer le fait que ça ne puisse pas être accueilli. C'est ça, on sait très bien qu'on est assez solide dans la compréhension que l'on a de soi. C'est-à-dire qu'envers et contre tout, c'est ce que je suis, ce que je veux vivre. Et parce que je suis tranquille avec ça, eh bien, je pourrais faire face à l'impossibilité qu'a l'autre de l'accueillir. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que même si les parents sont accueillants, gentils, aimants, parfois, c'est une surprise pour eux. Pas toujours, hein, parce que souvent, les enfants qui sont dans cette situation croient que les parents ne le sachent pas. Mais en général, ils en ont l'intuition. Mais c'est surtout la surprise qui fait leur difficulté.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain et vous pouvez faire un don, hein, je le signale, sur le site lerefuge.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Alors Mélanie, je ne sais pas si vous jouez, Stéphane, lui, passe un peu trop de temps dans les casinos, surtout du côté de Monaco.
Oh, pas du
les
tout.
Accros au jeu, rien ne va plus, c'est notre thème aujourd'hui.
Oui, ça les a ruinés.
Ah oui, ils ont mal fini.
Fyodor Dostoïevski, ruiné, il a écrit le joueur d'ailleurs. La Belle Otero,
encore
ruiné.
Plus ruiné.
Oh la pauvre.
Et alors non, moi mon personnage contemporain, il y en a toujours trois, il n'a pas été ruiné par le jeu pour dire que le jeu l'a rendu riche, c'est Julien Lepers. Lui.
Enfin, il est accro.
Ah oui, ça, il est accro, il a eu du mal à raccrocher d'ailleurs.
Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une excellente émission. Nous serons bien évidemment à l'écoute et vous aussi, je vous le conseille, restez sur Europe 1.